Bonjour. Alors, j'en suis où là? Voilà. Non, là. Voilà. Alors, je vais vous présenter une expérience de dépistage. Donc déjà, voilà, je vais l'utiliser aussi beaucoup, hein, mais bon, vous comprendrez. Et donc, c'est un exemple de dispositif médicalisé. Donc, ça répond un peu à l'introduction. Et je vais essayer de vous le présenter. Et surtout de discuter l'attractivité et la réception de ce dispositif médicalisé qui s'adresse à un public particulier. Donc c'est une expérience également associative qui a été mise en place par l'association Le Kiosque InfoSida à Paris. Alors, juste une image pour vous montrer que c'est un local associatif qui est en fait l'équivalent d'une boutique sur rue. Voilà, c'est un local ouvert dans une petite rue du Marais, une rue relativement calme, du côté du métro Saint-Paul. C'est ouvert 25 heures par semaine, vous voyez, avec des horaires variables et parfois des nocturnes le mercredi et une ouverture le samedi. C'est une recherche biomédicale dont vous avez le titre exact, faisabilité d'un dispositif de dépistage, etc., etc., s'adressant à des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Voilà. En fait, c'est assez classique, c'est un dispositif donc hors les murs, un modèle VTC qui est professionnalisé et un dispositif donc expérimental monocentrique qui n'a que cet endroit à Paris. Le circuit est également très classique, accueil, pré-test. Alors, donc son caractère, sa spécificité est d'être opéré par un médecin, le premier entretien. Le prélèvement pour le test rapide est effectué par un ou une infirmière et l'entretien post-test de nouveau par un médecin avec un dispositif de recueil de données, un auto-questionnaire et un questionnaire de satisfaction, auto-questionnaire de satisfaction. Voilà le protocole d'annonce et de confirmation. En fait, dans ce dispositif, le TROD et le diagnostic de confirmation sont en continuité dans le même dispositif. Donc, c'est à la fois du TROD, test rapide, et de la confirmation dans quasiment dans le même dispositif. En cas de test rapide positif, un prélèvement sur buvard est refait immédiatement et la confirmation est effectuée par le partenaire qui est le laboratoire du chemin vert sur confirmation opérée avec deux ELISA et un Western Blot. Et donc le retour de confirmation est en général assuré dans les 24 heures. Là, il est indiqué 24-72 heures. 72 heures, c'est rare, c'est quand il y a un week-end qui s'intercale ou un jour férié. En général, le résultat est très rapide, la confirmation. En cas de résultat positif, il y a un lien à la prise en charge qui est effectuée, ça fait partie du protocole, c'est-à-dire d'abord des conseils, du soutien, et en fait l'association Le Kiosque dispose aussi d'un psychologue qui est souvent sur place, donc qui peut recevoir la personne. Il y a tout un dispositif de soutien possible si la personne le demande, le consultant le demande, et un dispositif d'orientation, j'y reviendrai tout à l'heure, vers la prise en charge médicale de l'infection à VIH. L'intérêt a priori de l'approche médicalisée, c'était les suivants. C'est un choix du Kiosque et du groupe SOS, donc Le Kiosque fait partie du groupe SOS, c'est un choix de monter cette recherche biomédicale en tant que dispositif médicalisé, professionnalisé. Voilà les arguments qui pouvaient être avancés dans ce choix de l'approche médicalisée. Un cadre structurant et surtout un référentiel connu, une confidentialité a priori, un regard clinique qui semblait important sur la question des primo-infections. La rigueur des gestes techniques, et l'approche globale de santé sexuelle également, avec la dimension IST, dont j'en reparlerai éventuellement. Je vais aller très vite sur les résultats de la première année de fonctionnement. histoire de ne pas tenir trop longtemps la parole. Ce dispositif a accueilli, donc là, c'est sur la première année, janvier 2010, janvier 2011. C'est un dispositif, en fait, qui a fonctionné très rapidement à saturation. Vous voyez, 2500 personnes ont été accueillies, presque 2700 consultations. Vous voyez, il en était prévu un petit peu moins. La barre verte, c'était la prévision de fonctionnement. 2343 hommes donc, ont été inclus, et dont une dizaine de pourcents ont été vus deux fois ou plus. Qui vient ? Essentiellement des hommes jeunes vivant à Paris ou en région parisienne, homosexuels pour 8 sur 10, enfin se déclarant comme étant homosexuels pour 8 sur 10 d'entre eux, plutôt très diplômés, ils ont un emploi ou pour une part étudiants, et plutôt aisés. Ils sont sexuellement actifs et exposés au risque de transmission sexuelle du VIH. Exposition ni plus ni moins parce que les proportions de déclarées dans l'auto-questionnaire de pratiques sexuelles non protégées ou de pratiques sexuelles qu'on peut désigner comme étant à risque sont du même ordre de grandeur que celui qu'on peut avoir dans d'autres enquêtes telles que l'enquête Presse-Gay. Ce sont des hommes, là c'est un point intéressant, qui sont déjà habitués au dépistage pour le coup classique. Ce sont des hommes qui, donc pour 13%, ce qui a une proportion exactement semblable à celle de l'enquête Presse-Gay, c'est leur premier test. Un quart des moins de 25 ans viennent faire leur premier test dans ce dispositif, ou en tout cas des moins de 25 ans qui fréquentent Checkpoint sont en situation de premier test. Pour la majorité, donc, ce sont des hommes qui ont déjà eu recours au dépistage. Vous voyez que le délai médian au dernier test, c'est 12 mois. Ils ont bien intégré la recommandation usuelle d'un test par an. Alors, évidemment, le dispositif a proposé et offert à tous les consultants deux entretiens de prévention. D'où on a une petite idée du parcours, c'est-à-dire d'où ils viennent, etc. Donc, vous voyez, pour un tiers d'entre eux, donc on retrouve les 13% qui sont en premier test, mais pour un tiers d'entre eux, leur dernier test, ils ont choisi un CDAG pour un autre tiers chez un médecin en ville. Voilà. Donc, et pour 11%, ils sont revenus à Checkpoint. Un point intéressant du questionnaire, c'est que un petit peu moins de la moitié d'entre eux n'ont pas bénéficié de conseils lors de leur dernier test. En tout cas, le déclare. Alors, combien de diagnostics confirmés ? Vous voyez, 2,2%. C'est une proportion qui est... On a peu de références en termes d'études, mais on a une référence sur les consultants HSH... des CDAG dans une enquête un peu ancienne, c'est cet ordre un petit peu moins, mais c'est cet ordre de grandeur là. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a procédé, et c'est Christine Rousiou qui a travaillé sur cette dimension de l'enquête, à une analyse des Western Blot de confirmation, et il y a une proportion très importante d'infections récentes et de primo-infections sur l'ensemble des cas d'infection confirmés. Vous voyez, 17 primo-infections, dont 5 seulement ont été suspectées en consultation par les médecins qui ont reçu ces personnes. Et 26 infections récentes, c'est des Western Blot incomplets, et 9 infections anciennes. Alors, on retrouve les facteurs comportementaux associés au diagnostic de l'infection à VIH, qu'on a évoqué tout à l'heure pour l'ensemble de la file active. Je ne m'attarde pas dessus, si vous avez des questions, j'y répondrai plus précisément. Et en termes d'orientation, vous voyez, ce qui est important, c'est donc les consultants confirmés positifs se voient proposer différentes options en termes de suivi de l'infection à VIH. Donc, ils opèrent eux-mêmes le choix avec le conseil du médecin qui les reçoit. La majorité choisissent un suivi en médecine de ville, C'est intéressant. Et dans le dispositif, à un an, il y a environ 8-10% de perte de vue. C'est-à-dire qu'ils soit ne viennent pas au rendez-vous de confirmation le lendemain, par exemple, ou soit ne viennent pas par la suite, ne poursuivent pas le processus d'orientation. Alors, c'est peut-être ça qui est le plus important ici à discuter, c'est l'attractivité et l'appréciation d'un tel dispositif. Les motivations pour recourir à Checkpoint, c'est très massivement la nature du modèle lui-même et le TROD lui-même, c'est la rapidité. Le fait qu'un résultat soit rendu lors d'une même visite, d'une seule visite. Pour pratiquement la moitié, la dimension associative est très importante, car le fait que ce dispositif soit hors les murs, offert dans une association, identifiée comme étant, il l'identifie comme étant d'ailleurs un service, une association gay, ce qui n'est pas le cas du kiosque, hein. Pas uniquement. La disponibilité, et ce n'est pas tellement le lieu qui intéresse les consultants, c'est les horaires. Pour un quart, pas de prise de sang, c'est-à-dire la nature du prélèvement est un avantage pour un quart des consultants. Alors, l'enquête de satisfaction, bon, vous voyez des taux qui frisent 100%, l'enquête de satisfaction, elle est proposée à l'issue du parcours consultant. Évidemment, pour la grande majorité des consultants, ils sont très contents d'avoir reçu un résultat négatif au test rapide. Et on peut imaginer qu'ils ont tendance à être très satisfaits rien que par ce fait, donc à surévaluer leur appréciation du dispositif. Ceci dit, on avait également d'autres moyens d'évaluer. Il y a quand même assez peu de critiques au dispositif. Il y en a un peu, et c'est essentiellement sur le cadre. Et en fait, les locaux ne sont pas si grands que ça, etc., etc. L'attente dans le dispositif, comme il tourne à saturation, il y a parfois des temps d'attente assez longs en salle d'attente. Enfin, bien que l'attente moyenne, le protocole lui-même, le circuit dure une heure à peu près, peut-être un peu moins, et l'attente moyenne dépasse rarement un quart d'heure sur l'ensemble des consultants. L'appréciation des entretiens médicalisés, voyez, ça c'est donc tiré de l'enquête de satisfaction. On vous l'avez en pré-test, infirmier et post-test. Donc vous voyez, tout à fait très satisfait la note 7. On est au-dessus de la moitié. Et puis vous avez l'échelle d'appréciation détaillée. Donc ce type d'entretien reste bénéficie d'une appréciation extrêmement élevée. Et on a essayé de savoir un petit peu pourquoi, sur le point clé de pouvoir discuter de sexualité ou d'IST. Alors, le dépistage des IST n'est pas intégré à ce protocole, mais il était intégré en tant que possibilité. Les médecins consultants pouvaient prescrire des dépistages d'IST à discrétion aux consultants. Et en tout cas, discuter de cette question avec eux. Donc, ils trouvent assez important de pouvoir discuter de ça dans le cadre de ce protocole. Alors, on a essayé d'aller un petit peu plus loin. Ils trouvent important de parler de sexualité, d'accord. Seulement 40% le font par ailleurs, avec leur médecin habituel ou autre. Plus de la moitié des consultants ne parlent jamais de sexualité ou d'IST dans un cadre médical habituel. On a croisé cette question dans, cette fois, l'enquête par auto-questionnaire. On n'est plus dans la satisfaction. Dans l'enquête de satisfaction, on est dans l'auto-questionnaire. Et vous voyez qu'on retombe plus ou moins dans les mêmes ordres de grandeur. Un tiers des consultants disent parler de sexualité, là on n'a pas la fréquence, avec un médecin habituel. Les deux autres tiers n'en parlent pas. J'ai essayé de chercher un petit peu d'autres références sur cette question. C'est pas très facile à trouver. Il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps dans une revue médicale suisse sur justement cette question, aborder la sexualité en consultation, lors d'une rencontre avec un médecin. Et il y a cet indicateur, 29% des enquêtés suisses HSH n'ont jamais parlé de sexualité avec leur médecin. Vous voyez, on est quand même dans des proportions un petit peu plus élevées dans notre situation de cette recherche, donc situation française, on peut dire. Ceci dit, il faut prendre ça avec prudence parce que les questions posées ne sont pas tout à fait les mêmes. La méthodologie d'enquête n'est pas tout à fait la même. Mais bon, ça donne quelques petits repères. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce dispositif ? Bon, il s'avère attractif et donc c'est à la fois son modèle, son caractère associatif et médicalisé attire majoritairement des jeunes gays urbains hautement éduqués, en majorité, plus une marge moins identitaire, sur laquelle on faut travailler encore. Mais voilà, le cœur de cible, c'est des gays urbains très éduqués, déjà habitués au dépistage, avec la fréquence du dernier test, du dernier dépistage, un an. Ils sont exposés au risque de transmission du VIH. J'ajoute ici qu'ils sont peu inscrits dans des cultures sexuelles qu'on appellerait d'aventurisme sexuel ou des cultures festives intenses, etc. C'est pas ça. Ils sont très peu consommateurs de produits, par exemple. On a posé ces questions-là aussi. Ils viennent là essentiellement pour le facteur disponibilité, temps et reconnaissance identitaire, on va l'appeler comme ça. Voilà les trois repères qui les intéressent. La dimension associative, c'est à la fois le modèle proposé, mais l'accueil, le cadre, l'écoute et la disponibilité horaire que ça permet sont très très chargés, la nocturne du mercredi et l'ouverture du samedi. La dimension médicalisée, elle est jugée importante, c'est-à-dire, en fait, pour eux, c'est la possibilité de parler avec des professionnels de santé, pour le cadre et pour l'ouverture sur au-delà du VIH. Sexualité, santé, IST. Échanger sur ces questions. Alors, quelle perspective pour un tel dispositif dans, d'abord, sa pérennité. La semaine prochaine ou la semaine suivante, je ne sais plus, les plages horaires augmentent de 50%. Le dispositif sera ouvert 35 heures au lieu de 25, un peu moins de 50%, donc, parce que la demande est là, c'est complètement saturé. La perspective, c'est de le pérenniser en tant que, dans le cadre de l'arrêté TROD, de trouver évidemment un opérateur ou des opérateurs qui financent ce dispositif, c'est en cours. Pour le groupe SOS et le kiosque, c'était aussi de modéliser un peu cette approche. Alors dans ce choix TROD médicalisé, avec derrière d'autres projets pour d'autres publics, j'en parle pas ici, mais qui ne seraient pas forcément médicalisés ou qui n'auraient pas forcément le même protocole, mais toujours dans le cadre de l'arrêté TROD. Voilà. En fait, il y a des projets d'offres TROD auprès de publics très différents qui sont touchés par les actions du groupe SOS, en particulier personnes migrantes dans le nord de Paris qui ne parlent pas français, donc tout un dispositif d'accompagnement et de... Voilà. Bon, je ne m'étends pas sur cette... Mais voilà, l'idée, c'était quand même de tester, de voir, d'avoir une idée extrêmement précise sur ce modèle-là pour éventuellement pouvoir l'étendre en le modifiant ou pas. Voilà, j'associe évidemment à cette présentation le comité scientifique de cette recherche biomédicale et on a beaucoup travaillé sur cette enquête. Et je remercie évidemment aussi, avec beaucoup de chaleur, toute l'équipe de Checkpoint, de ce dispositif, et les partenaires financiers ou autres de cette étude. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Des questions dans la salle ?
Bonjour, Philippe Grimbert, médecin généraliste. Donc, je vois sur la dernière diapo donc, les financeurs. En gros, je voulais avoir une idée du budget de fonctionnement.
Je ne l'ai pas en tête. Je peux vous répondre, on peut vous répondre plus tard. Si vous me laissez un mail, etc., on peut vous donner au moins l'ordre de grandeur et puis surtout la structure du budget. Ouais. Vraiment, je vous dirais des bêtises, là. Je ne l'ai pas du tout.
Est-ce que vous avez déjà fait un lien, en fait, entre le public Bac plus 4, donc majeure partie des personnes qui fréquentent le Checkpoint, et leur demande que ça soit fait par un médecin? Est-ce qu'il n'y a pas un rapport aussi... Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Je ne sais pas si un bac plus 4, on discute encore ce midi par exemple, dans certains avec certains que ça pas, si un avocat qui se prend des lignes de coke en tire-larigot a envie d'aller rencontrer un éducateur d'un que ça pas. Donc, fait le lien entre niveau d'études à niveau d'études et.
La qualité, on est à peu près. Il est à peu près évident qu'il y a une co-construction entre le modèle proposé. Et la composition qualitative de la fréquentation, c'est sûr. On a du mal à mettre le doigt sur les points les plus importants de ça. Il faut faire d'autres tests sur la fréquentation. Je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse. Mais il est probable, très probable, que la dimension ou que le caractère médicalisé et que... le haut niveau d'éducation de la phylactique, enfin d'une majeure partie de la phylactique, se répondent. Modèle dans lequel ces jeunes hommes sont à l'aise. C'est évident. Maintenant, on a aussi, ce qui nous intéresse aussi, c'est de détailler la minorité qui fréquente, parce que je l'ai mentionné assez vite. C'est HSH moins identitaire. En fait, c'est, on va dire, autour d'une dizaine de pourcents, peut-être un peu plus. Et là, on a des hommes éventuellement pas plus âgés, mais qui viennent de beaucoup plus loin dans l'Île-de-France. Donc, on a leurs. Qui ont des profils où ils ne se déclarent pas homosexuels. Qui ont des niveaux de diplôme beaucoup moins élevés. Et donc ça aussi nous intéresse, c'est cette partie-là. Ils sont en minorité, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelles variables ou quelles caractéristiques faut faire bouger dans l'offre pour qu'ils viennent plus? Est-ce que c'est une question géographique? Est-ce que c'est une question d'accueil? Est-ce que c'est une question... Ça nous intéresse aussi. Parce que les jeunes gays diplômés, ils viendront toujours, de toute façon. C'est là qu'on trouve la majorité de jeunes hommes qui avaient déjà accès au dépistage, qui le pratiquaient déjà. Ils allaient au CDAG du Figuier ou ils allaient voir leur médecin.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est quand on prend les deux interventions qui viennent d'avoir lieu, c'est effectivement qu'à partir du moment où on choisit un modèle, qu'on construit un modèle, on va sélectionner une population avec des comportements. Et que le TROD en tant que tel, qui est un outil comme un autre, on peut l'utiliser avec en ciblant différentes pratiques derrière, différentes populations, différentes.
Ce qui est important, c'est que le modèle, dans sa globalité, n'est pas neutre. Voilà. Il construit la très largement qui vient. Et c'est ça qu'on essaye aussi de mettre en lumière au travers de cette expérience Checkpoint. Évidemment, c'est en plein centre de Paris, dans le Marais, sur des gays. on n'avait quand même pas grand risque à ce que le dispositif soit vide. Mais on a été quand même surpris par l'affluence, qui est une suraffluence, on refuse du monde. Toujours, d'où l'augmentation des horaires d'ouverture, mais sur aussi la qualité de cette fréquentation qui vient. Voilà. Ce qui nous pose problème, c'est le petit nombre d'infections anciennes. Où vont-ils ? Voilà. Parce que là, on n'est pas très surpris d'avoir des infections récentes. Comme ce sont des hommes qui sont testés régulièrement, il y a une certaine logique à ce qu'on... à ce que les cas d'infection confirmés dans le système Checkpoint soient récents. Bon. C'est la faible proportion d'infections anciennes qui nous pose problème.
Je pense que les trottes vont nous permettre effectivement de revoir l'histoire naturelle et les choses. Et effectivement, si on avait des trottes dans des CDAG ou des trottes dans des cabinets de médecine générale avec des médecins qui seraient très investis, par exemple, dans des cités, ça pourrait aussi avoir un intérêt direct. Donc je pense que voilà, on a évoqué la démédicalisation du trod. Là, tu nous redis l'importance de la médicalisation dans ton expérience. Et je pense que c'est deux modèles qui se répondent.
On s'attendait par exemple à avoir une proportion plus notable de gays parisiens inscrits dans les cultures sexuelles intenses ou fréquentant beaucoup les clubs, les backrooms, etc. Ils sont très peu nombreux à venir dans ce dispositif. Alors là aussi, ça répond pas à cette frange-là, alors qu'on s'attendait à ce que ça y réponde.
Il faut revoir la copie. Alors.
Donc, c'est pas ça. C'est qu'il y a des choses à bouger, je pense. Donc, ça nous donne des points d'expérience pour éventuellement proposer d'autres protocoles un peu différents ou de lieux un peu différents. Toujours dehors les murs, mais autrement, ailleurs, d'autres horaires. Je sais pas, il y a quelque chose.
Merci en tout cas pour ta présentation. Ah pardon, il y avait la question encore. Je n'ai pas vu.
Philippe Queru, moi je suis médecin, entre autres à Fernand Vidal, où j'ai une consultation, où je tiens une consultation cocaïne. Et je suis surpris, il y a une bonne partie de mes patients qui fréquentent le milieu homosexuel. Et tous me disent qu'ils consomment des produits. Et que tous leurs amis consomment des produits. Donc je suis surpris que tu dises qu'il n'y a pas de... qui a peu de consommation de produits et partout ça me paraît relativement généralisé.
J'ai pas ces données là avec moi, mais ça on peut les partager. Je peux ils sont consommateurs de cannabis, etc. Bon voilà, en fait c'est cannabis poppers, voilà. Mais cocaïne, etc., très peu dans cette file active, voilà. Encore moins drogue de synthèse, encore voilà, très peu.
Oui. J'avais deux petites questions de précision. Alors la première, j'étais un peu distraite pendant la diapo, donc j'ai peut-être loupé l'info. L'intérêt du coup, des techniques de faire une confirmation, faire un test buvard après le trod. Du coup, il y a quand même après un...
Si le trod est positif, la confirmation est obligatoire.
Oui, mais est-ce qu'elle est en plus avec le buvard ? De toute façon, il y a une prise de sang obligatoire après aussi.
Non, elle est faite sur buvard.
Ah d'accord. Voilà,
la confirmation est faite sur buvard.
Je n'avais pas suivi. Et la deuxième question, c'était, j'ai vu sur une diapo qu'il y avait médecin, sur un graphique médecin pré-test et médecin post-test. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ces deux médecins différents.
Non, c'est le même.
Ah, voilà. Ok, voilà, je trouvais ça...
C'est le même.
D'accord, ok, merci.
Didier Clos, département de l'Aube, investi depuis de nombreuses années dans le milieu du sida et aussi de l'homosexualité. Et je pense que cette discordance entre notre confrère de Fernand Vidal et toi-même par rapport à la population, elle est parfaitement logique si tu étudies culturellement ce qu'est le milieu homosexuel. Premièrement, tous les hétérosexuels ne sont pas toxicomanes et tous les homosexuels n'y sont pas non plus. Je pense que vous ne voyez pas la même population. La population que tu vois au kiosque Info au kiosque, logiquement, culturellement, effectivement, c'est cette population qui se retrouve culturellement depuis 30 ans au travers du milieu associatif qui vient de voir. Et donc, ce n'est pas les mêmes patients que ceux, effectivement, qui va voir à Fernand Vidal. Donc, tu draines un public relativement particulier. Tout comme moi, en tant que médecin généraliste en ville, j'ai plein de patients qui ont deux médecins. viennent me voir uniquement pour les questions relatives à la sexualité et qui gardent leur médecin traitant habituel, mariés ou non mariés d'un autre côté. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement une double démarche en termes de soins ou en termes de contact sur le plan médical. Et puis j'avais une autre question que je voulais poser tout à l'heure, mais bon, vous n'avez pas vu. C'était concernant les TROD, qui a le droit de se les procurer et par où on peut se les procurer? Allez, c'est quand même une question concrète.
Vas-y, réponds.
Alors, sur les TROD VIH, je ne sais pas comment on peut se les procurer. Aujourd'hui, les TROD VHC et VHB sont à l'état d'expérimentation. Voilà. Et les TROD VIH, comme ils ont été validés, un certain nombre d'ARS sont en train de faire des appels d'offres.
Voilà. Auprès des labos.
Avec un coût par test, en disant si on vous donne tant d'euros par test, est-ce que vous êtes prêt? Mais ça comprend le test, le salariat des personnes, etc. Voilà. Donc, quelles sont les associations qui sont prêtes ou quelles sont les structures qui sont prêtes à demander l'accès aux TROD dans les ARS?
Non,
tu peux. Il y a des gens qui peuvent demander dans un cadre de XAPA, par exemple, ou CDAG.
L'arrêté prévoit d'avoir un agrément, d'assurer une formation des personnes qui opèrent le TROD, et faut déposer un protocole assez précis, je pense. Voilà. Après, le cadre n'est pas contraint. Ça peut être une assoce ou autre chose.
Juste une petite question, pareil, je ne sais pas si c'était dit dans la diapo. Pour le rendu des résultats, est-ce que c'était uniquement du personnel médical, c'est-à-dire des médecins qui faisaient le rendu de résultats, ou est-ce que vous aviez des éducs, des infirmiers qui faisaient du rendu de résultats de test?
Dans ce dispositif, non, c'est le médecin qui fait le rendu de résultats.
Okay. On passe à la communication suivante. Merci encore.